ToraBox.com. Pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
Je suis venue comme ça à la veille de Pessah, de sortir des armoires et des éponges, pour finaliser toute cette réflexion qu'on a entamée déjà il y a 2 mois, sur le grand nocé qui s'appelle la critique. On l'a découpé en 3 parties, parce que c'est énorme. Donc dans la première partie, on avait commencé à définir un peu de quoi il s'agissait. Dans la deuxième partie, on a beaucoup parlé de l'estime personnelle, de la dignité, en établissant que finalement, pour ne pas tomber dans l'excès d'autocritique ou de critique, il fallait construire son estime personnelle. Et comme Rambam nous l'avait suggéré dans le Pérouche sur Pirkei Avot, il nous avait dit « Alti racha beifnei atzmecha », ça c'est Pirkei Avot, « Ne sois pas racha à tes propres yeux », parce que si tu te vois comme quelqu'un de négatif, tu ne reculeras devant aucun acte négatif. Donc en fait, ça sous-tend, ça sous-entend de façon très claire que lorsque quelqu'un y cède, il capitule devant le Yetzer, à accepter une image négative de lui-même ou accepter une image négative d'un autre, pour lui-même en tout cas, il ne reculera devant aucun acte négatif. Alors que s'il construit de lui-même une estime personnelle, de la dignité, alors c'est ça qui va le protéger plus que tout, plus que le sens du devoir, plus que tout. C'est vraiment la machine centrale du Ben Adam, son tadmit, son image personnelle. Donc d'où l'importance de préserver à tout prix cette image, de préserver à tout prix cette tadmit, ce self-image que nous avons de nous-mêmes. Et on avait dit, un des grands principes dont il fallait essayer de se rappeler, c'était « l'évaquer est à ma'asé, veléodé de ta'osé » lorsqu'on doit reprendre un enfant ou nous-mêmes. « L'évaquer est à ma'asé, veléodé de ta'osé » Il faut porter sa remarque sur l'acte négatif et en aucun cas sur la personne, ni sur sa personnalité, ni sur un trait de caractère qui serait négatif, en aucune manière. Et donc on avait dit, il faut faire cette gymnastique, cette pirouette, en même temps de porter la remarque sur l'acte négatif qui doit être vu comme un faux pas temporaire, et remonter au contraire la personne en question. Et on avait dit, comment on fait ça? Ça a l'air complètement paradoxal, en utilisant des formulations intelligentes comme « l'omatim lecha »,« l'omatim li ». Vous avez utilisé tout ça? Itbalbalta. Ani itbalbalti. Ken, zelo ani. C'est pas moi. Donc ça c'était, on avait vu beaucoup ça la dernière fois, à quel point c'était important, parce que on a compris avec, j'espère, Bezrat Hashem, avec ce qu'on a vu avant, que l'image personnelle, elle conditionne, elle commandite nos comportements, notre niveau de comportement est complètement conditionné par cette machine centrale qui est l'image personnelle, et elle conditionne également notre perception de la réalité. On avait vu la dernière fois comment je me vois, comme ça je vois. Si je me vois comme quelqu'un de ordonné, je vais collectionner des preuves encore et encore que je suis ordonné. J'ai pris un exemple très optimiste, n'est-ce pas? Si je me vois comme quelque chose de négatif, je vais collectionner les preuves qui viennent confirmer ma thèse, que je ne suis pas comme ça. Et inversement, lorsque je vais oui réussir, alors je vais même pas le voir. Je ne vais même pas y faire attention. Ou si quelqu'un me le fait remarquer, je vais dire « Ah oui, bon, oui, c'était un faux pas temporaire, cette réussite. » D'accord ? L'idée, c'était comme ça. Donc, on avait essayé à la fin de se conditionner dans l'idée de dire « Décide que tu es quelqu'un de bien et va collectionner maintenant les preuves. » L'idée, c'était pas « Décide d'être quelqu'un de bien et vis dans les fantaisies. » C'est pas ça. Décide d'avoir une bonne opinion de toi-même. Rappelle-toi, rends-toi compte qui tu es, Bichlal. Et après, configuré comme ça, Kitlouk Veparchanou, tu vas commencer à collectionner des preuves qui vont venir montrer que ce n'était pas une erreur. On avait vu aussi, c'était je crois le dernier point, que les attentes négatives, les prémonitions négatives, les appréhensions qui préfigurent un développement à venir négatif pour l'enfant, ou pour quelqu'un, ou pour soi, oui, n'ont rien à voir avec une quelconque capacité prophétique. Vous vous rappelez ? Ce n'était pas une prévision de l'avenir, mais une mise en place de l'avenir. C'est une capitulation devant le Yetzer, tout simplement. Le Yetzer, il se sert de notre imagination pour produire des pensées négatives. Une fois qu'on l'a laissé entrer, Maintenant, il va mettre la machine en route. Vous avez remarqué cette chose-là, que dès qu'on commence à céder, après, il peut commencer à prendre le poste de pilotage et une pensée en amène une autre, on amène une autre quand quelqu'un est inquiet ou il a peur de quelque chose ou quoi que ce soit. Et ça commence. Blablabla, oui, parce qu'on lui a laissé le volant. Donc, nous, comment on avait arrêté ça? On avait dit que notre Akadosh Baruch Hu, il nous a donné à notre Sechel la faculté de créer de la réalité à travers nos pensées. Lorsque on entretient des pensées positives, on crée de la réalité positive. Lorsqu'on entretient des pensées négatives, ben, pas nous, mais certains créent de la réalité négative. D'accord? On avait vu, je crois, comment c'était illustré, comme c'était écrit dans Iov, qui fachat fachadeti vetacher yagorti yavoli. Est-ce que j'avais cité ça? Je sais plus. Dans Iov, il dit, ce que j'avais appréhendé, c'est ça qui m'est arrivé. Et vous vous rappelez qu'il a eu beaucoup de difficultés. Donc le fait d'appréhender, ce n'est pas un don prophétique, c'est une capitulation devant le Yetzer. D'où on sait cette chose-là? De nos textes, tout simplement, pas des nouvelles méthodes. Nevoa shura rak bisimcha, on avait dit, la prophétie, entre guillemets, n'intervient que dans la joie. Et là, ici, je vous ai apporté le mekor, comme ça, ce ne sera pas juste des mots à peu près. Le Rambam, dans Ilchot Yesodea Torah 7.4, pour les lames d'agnotes qui vont aller vérifier, il explique qu'à l'époque des Nevi'im, une personne ne pouvait pas atteindre la prophétie si elle n'était pas dans un état de simcha total. Et le Talmud Yerushalmi, traité Souka 5.1, je ne fais pas de gemara, n'ayez pas peur, mais je vous cite les sources, il rapporte que Yona Anavi, il a atteint pour la première fois la prophétie pendant la simcha de Bet HaShoeva, la fête des... Comment ça se traduit libation, non? C'est ça ou c'est pas comme ça qu'on traduit? Pendant la fête de Sukkot, Kol Erev Chol HaMoed, il y avait donc la fête des libations où les gens atteignaient une très très grande joie. Yona Hanavi, c'est rapporté par le Talmud Yerushalmi, qu'il a atteint la prophétie pour la première fois dans cet état extatique de joie. Donc, la joie, c'est elle qui amène le Ruach HaKodesh, c'est elle qui amène la prophétie. Donc, si quelqu'un, il est dans un état de mérirut, d'amertume, de frustration, de colère, ou d'appréhension ou de peur, il ne peut pas espérer avoir du Ruach HaKodesh, vous comprenez? Parce qu'il y a bien marqué HaKodesh. Donc si c'est Kadosh, ça ne peut pas produire ce genre de sentiment-là, ça ne peut produire que de la Simcha. Et ça peut interagir qu'avec de la Simcha. Donc là, ce ne serait pas vraiment Ruach HaKodesh. On a également dans nos Mekorot, de façon abondante, le parallèle qui est fait entre quelqu'un qui est en état de tristesse et qui est justement par cet état-là, se coupe du Ruach HaKodesh. Regardez cet exemple. Yaakov Avinu, il n'a pas bénéficié du Ruach HaKodesh pendant 22 ans parce qu'il pleurait Yosef. Il n'a plus le Ruach HaKodesh. Donc les textes à nous établissent un lien très clair entre la Simcha et entre guillemets le don de prophétie. Même si, bien sûr, on n'est pas prophète, mais il y a un peu de Ruach HaKodesh. C'est quand on choisit le prénom d'un enfant, on a un petit quelque chose. Ouais. Et les sentiments inverses, c'est-à-dire la fermeture, la tristesse, les sentiments négatifs, et le fait que justement il n'y a plus de possibilité de communication. La communication est coupée. Rashi dit en fait que la Shrina, elle n'est revenue chez Yaakov que lorsqu'il a entendu Od Yosef Chai. Vous savez, c'est Rashi qui lui a donné la bonne nouvelle que Yosef est encore vivant. C'est à ce moment-là seulement que la Shrina est revenue. C'est à ce moment-là qu'il a à nouveau atteint Ruach HaKodesh. Pendant les 22 ans de tristesse, il ne pouvait pas l'atteindre. Nos textes, ils sont très très clairs sur cette action. Très très clairs. Même analogie, j'ai trouvé également, concernant Mordechai dans Megillat Esther. On a passé pour Purim, je sais. Mais c'est une toute petite allusion intéressante. Il y a marqué là-bas, « Ki en lavo beshar amelech belevushak » Mordechai, il a dû rester à la porte du palais, il n'a pas pu rentrer dans le palais du roi, parce que, et c'est marqué dans la Megillah, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le palais du roi, belevouche sac, en portant un sac de deuil. Oui, ça veut dire quoi ça? C'est juste pour Achashverosh, c'était dit? Non, c'était un enseignement. Ça veut dire tu ne peux pas rentrer dans le palais du roi, le grand roi, tu ne peux pas t'approcher d'Akadosh Baruch Hu belevouche sac, avec la tristesse. Donc ici c'est très barour, que la simcha, elle génère justement de la clairvoyance et la mérirut, l'amertume, la peur, l'appréhension, elle génère justement une obstruction de la clairvoyance. Donc si quelqu'un il dit, mais c'est mon fils, c'est ma fille, j'ai la fibre maternelle, je vois très bien ce qui se profile. Si cette maman elle dit comme ça et elle pense que c'est valable, vérifie dans quel genre de sentiment tu te trouves. Est-ce que tu te trouves dans des sentiments positifs, de joie? Ça m'étonnerait. Réfléchissez à la chose. Alors si tu ne te trouves pas dans des sentiments de joie ou de sentiments de satisfaction, et que donc peut-être tu es dans des sentiments inverses, c'est-à-dire d'appréhension, de méfiance, d'inquiétude, comprends bien que ça ne pourra jamais s'apparenter à quelque chose qui ressemble à du Ruach HaKodesh ou de la Nevoa ou de la prévision. D'accord? Mais par contre, à force de projeter des idées négatives, parfois ça finit par avoir un effet dans la réalité. Donc l'idée, c'est que pour nous, Shalom Aleichem. Pour nous, il faut impérativement multiplier les attentes et les pensées positives. D'accord? On ne doit pas figer ou étiqueter quelqu'un. Les gens, ils sont des produits évolutifs. Ils ne sont pas figeables ou emprisonnables dans une image. C'est dommage. Il faut donner le droit à un avenir à l'enfant. Et pas rentrer dans des inquiétudes qui l'ont déjà figé ou ficelé dans un scénario qui n'est pas bon. Donc pour devenir, il faut croire en l'avenir. Voilà, ça c'est un des motos, un des grands principes de Chinuch Yehudi. On va devoir faire extrêmement attention, ce qu'on va voir plus en détail dans cette séance, à ne pas arriver à une situation où l'enfant il se voit comme chasser veparhout. Vous vous rappelez qu'on a dit, le pérouche du Rambam, « Chez Adam, irshov et atzmo chasser veparhout, lo igdal be'einav chisaron shiaseu » Quand un homme il se voit comme déficient et indigne, il ne recule pas devant des actes négatifs. Donc nous, on va faire extrêmement attention à ce que l'enfant il n'arrive pas à une situation où il se voit comme chasser veparhout, c'est-à-dire négatif, déficient. On a vu dans la séance précédente comment ça marchait pour le mensonge et la vérité, comment cet enfant qui a été mal géré au niveau de l'éducation à la vérité, il se voit comme un menteur. C'est pas juste que c'est étiqueté dans son image personnelle qu'il est menteur, mais c'est que chaque fois qu'il est confronté à l'épreuve, il n'est pas capable de s'en sortir. Pourquoi il n'est pas capable? Parce que cette critique récurrente, elle n'a pas juste touché son image personnelle, elle a affecté sa confiance en lui-même dans sa capacité d'affronter l'épreuve. C'est ce qu'on n'a pas vu. Donc c'est pour ça qu'il dit, mais je ne peux pas puisque je suis un menteur. Vous rappelez, je sais que ça fait plus d'un mois. L'idée c'est qu'on lui dit, mais arrête de mentir, tu ne seras plus un menteur. Il dit, je ne peux pas puisque je suis un menteur. Donc l'idée c'est que le dommage, il n'est pas seulement d'avoir terni l'image personnelle de l'enfant, il est également d'avoir, saboté quelque part sa capacité de surmonter l'épreuve dans ce domaine-là. Donc c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que le Rav Jacobson, il qualifie donc des critiques récurrentes sur la personnalité, ce qu'on a complètement invalidé, comme menteur, idiot, paresseux, égoïste, oui. Il dit « Zé'asson chinuchi ». Dans son livre, il utilise des mots très durs. « Zé'asson chinuchi », c'est une catastrophe éducative. Bien évidemment, quand elles sont récurrentes, je précise, si une fois est sorti un mot dans un état pas très bien, c'est pas ça qui va faire le problème. Ce qui va faire le problème, c'est quand ça devient quelque chose de très fréquent et très récurrent. Donc, le fait que l'enfant, il a cette image négative de lui-même dans ce domaine, et que donc, il ne croit pas en sa capacité de réussir à l'épreuve, va faire qu'effectivement, il va échouer plusieurs fois dans cette épreuve. Et le fait qu'il va échouer plusieurs fois, il va donc collectionner des expériences, où il va voir qu'il a échoué. Donc ce qui va faire en fait un cercle vicieux, où il se convainc encore davantage que c'est Zata de Michelo, c'est son image personnelle de lui-même. En plus de ça, ce genre de critiques sur la personnalité, quand elles sont récurrentes, elle habitue l'enfant à se focaliser sur ses échecs seulement. Et c'est comme ça qu'il continue une fois adulte. Il est focalisé négatif. Donc on peut affirmer que la focalisation négative, c'est le résultat de la critique. Et la focalisation positive, c'est le résultat de l'encouragement, comme on a vu avant. Alors on a vu la dernière fois, donc, dans les exemples de menteurs, voleurs et matérialistes. C'était les trois illustrations qu'on avait faites la dernière fois. Je veux voir à présent avec vous paresseux et idiot. Alors, n'ayez pas peur. On va faire ça par étapes. et par illustration, comment on travaille avec ça. D'abord, on commence par la paresse. Très facilement, il y a des parents qui sortent le mot lorsque l'enfant ne veut pas trop coopérer ou pas se lever à l'heure. Ça sort très facilement. Atzlan, Zeatzlot, Atzlan. Ouais, paresseux. Alors, le Rav Jacobson, il va affirmer quelque chose qui est peut-être un peu surprenant. Il dit d'abord, je veux affirmer qu'il n'existe pas intrinsèquement d'enfants paresseux. Beaucoup pourraient dire, Rav Jacobson, vous n'êtes pas venu chez moi. Vous ne les connaissez pas, vous. Alors, la réponse qu'il donne, c'est très simple. Il dit, la paresse, il faut d'abord savoir la définir. Selon nos sources à nous, Atzlut a un rapport avec Atzvut. La paresse a un rapport avec la tristesse. Oui. Il dit, vous trouvez que les enfants, comment ils sont les enfants quand ils sont petits? Ils marchent comment dans la rue? Ils sautillent. Je vous ai dit que ma fille m'a fait sautiller une fois. Je vous ai raconté ce déboire. Ils sautillent. Ils sont, parce que Hachem bara bria smicha. Il a créé une créature enjouée. Oui, Baruch Hachem. Les enfants ne souffrent pas de cette aliénation de façon naturelle. Parce que la paresse, c'est pas lorsque quelqu'un il a pas trop envie de bouger. C'est que même quand il a envie de faire une certaine chose, et qu'il est intéressé à faire cette chose, il y a une pesanteur qui l'empêche d'agir. C'est de la passivité, c'est de la déprime. C'est pas ce qu'on pourrait imaginer. Atzlut en hébreu, dans son sens littéral, ça a un rapport avec Atzlut. Donc évidemment, selon cette définition-là, ça ne correspond pas du tout au type de comportement que peuvent avoir les enfants, qu'on qualifie un peu rapidement de Atzlut ou de Atzlan, oui. Alors, ok, ben c'est-à-dire c'est une petite différence de sens. Il dit oui, mais c'est une différence qui est très, très, très critique. Pourquoi? Il dit, lorsque tu dis qu'il est paresseux, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il veut pas étudier. Il veut pas étudier. Alors le Rav dit, ben si c'est ennuyeux le cours, moi non plus, j'ai pas envie d'étudier. C'est pas lié au fait de vouloir étudier ou pas. C'est que parfois c'est pas intéressant, c'est pas rendu intéressant. Après, il dit, oui, mais il ne veut pas se lever à l'heure le matin. D'accord. Alors, la question qui est à poser ici. Quand il y a un tioul, comment il se lève? Un tioul, une excursion, oui? Alors, certains disent, c'est le chokhma. Mais alors quoi? Mais quand il y a une excursion, évidemment qu'il va se lever. Ah bon, s'il va se lever, on ne parle pas de paresse. Mais c'est pas possible que vous dites la Rav Jacobson. Et lui, il explique, il dit, oui, c'est possible. C'est ça qui fait la différence entre un véritable problème de paresse, qui est une aliénation, qui est propre à l'adulte et pas à l'enfant. Et ce qui s'appelle Rouchissardout, le sens de survie de l'enfant, qui s'éloigne des choses qu'il n'a pas envie de faire et qui court vers les choses qui lui procurent de la satisfaction, comme tout être humain normalement constitué. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'éduquer à faire ce qu'il doit faire, mais ça veut dire n'appelle pas sa paresse. Pourquoi? Le Rav témoigne avoir rencontré un ancien directeur de recherche psychologique dans un des pays de l'Est, qui est venu en Israël. Et cet ancien directeur, il lui a confié que là-bas, les tests pour la recherche psychologique, ils ne sont pas faits sur des lapins. Ils sont faits sur des gens. Ouais, des enfants. Sans problème. Ils ont science sans conscience là-bas. Ils ont pas de problème. Donc, il lui a dit qu'ils ont fait, des tests qui ont mis en évidence et qui ont été validés qu'il est pratiquement possible d'induire, on va dire une grande probabilité, chas v'chalila, de tendance à la passivité, à la dépression adulte, en ayant fait un certain traitement à des enfants. C'est quoi ce traitement? C'est qu'il le répète du matin au soir, atzlan, atzlan, atzlan. Paresseux, paresseux, paresseux. Donc ce que nous on sait par nos sources, que atzlut v'atzvut sont liés, là-bas, ils l'ont expérimenté. Ils l'ont expérimenté sur des gens. Et ils ont constaté que ce type de lavage de cerveau, de répéter sans arrêt paresseux, paresseux, c'est ce qui imprime les premières soubassements, on va dire, de cette probabilité-là de convertir cette chose-là en passivité plus tard ou en tendance, chas v'chalila, à la dépression. Donc c'est pour ça qu'ici, on ne peut pas prendre à la légère des choses comme ça. Si l'enfant, il traîne les pieds, on lui donne des directives, comme je vous ai dit toujours. pas des reproches, des directives. Je traîne les pieds, hop, allez debout. T'es pas chamallow, encore une fois, énergique. Mais pas des reproches, pas des critiques.
En fait, aucune, on ne rentre pas dans. On essaye au maximum, parce que même en donnant des directives, parfois, on rentre un peu dans la moralisation.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est très dur. Très dur. Je m'entraîne tous les jours.
Ok, en général. Mais il faut, c'est bon pour toi, tu prends des bonnes habitudes.
Pas au moment où il doit se lever. Pas au moment où il doit se lever.
Il faut stopper le. Même si on est en directive morale.
Zelomit Kabel. C'est pas reçu. Par chez vous, réfléchissez. Vous, au moment de la difficulté, on vous fait de la morale de la chose. Tu dis, mais laisse-moi tranquille déjà. Tu m'en parleras quand j'aurai réussi.
Donc on reste
tu m'en parleras quand j'aurai réussi.
Allez, on est courageux, on se lève.
On doit se lever. On doit se lever. Mais j'ai pas envie. C'est pas une question d'envie. Debout. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est chamallow? Ça va pas ou quoi? Mais pas de moralisation. Pas de reproche, pas de critique. Quand est-ce qu'elle vient la moralisation? Parce que le problème, c'est que tout est déformé. Quand tu dis moralisation, tu passes déjà à séance de reproche moralisée. Nous, quand on parle de moussar en hébreu, c'est pas ça. Je t'apparche chez moi, quelle différence, c'est pas croyable. Quand on parle de moussar, le Rav Yagossa, il nous avait dit, nous, à la yeshiva, il est de yeshiva de Slabotka. À la yeshiva, quand on parlait du mot moussar, tout de suite, les associations, elles se faisaient, c'est que le challenge... Tu grimpes la montagne, tu conquiers des sommets. Voilà, c'est ça. Eux, ils entendaient le mot Moussa, c'est ça qu'ils pensaient. Ou Irat Shamaim, c'est ça qu'ils pensaient. Ils disent, quel dommage qu'aujourd'hui, quand tu dis le mot Moussa, ils se disent ça, ils vont encore me prendre une notion de morale. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quand le faire et comment le faire. Les messages éthiques, les messages de valeur, on doit les donner au moment où l'enfant, il a réussi. Je reprécise toujours cette chose-là parce qu'elle est antinaturelle. Il s'est levé, fais-lui tout le moussard. Vas-y. Après qu'il s'est levé. Des fois, pas tout de suite après parce qu'il risque d'être un peu énervé. Ouais. Une heure après, quand il revient. Quand la cavotte, c'est comme ça important, se lever à l'heure. Le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Mais tu lui dis ça quand il a la tête sur l'oreiller. Mais il entend même pas. Et s'il entend, ça lui agresse les oreilles. Et l'intériorisation du message, walou, c'est impossible. Parce qu'il faut savoir quand parler, comment parler. À ce moment-là, il n'y a pas de communication possible. Vous comprenez l'idée? Quand on est... Rappelez-vous, on avait vu Afala avec Rino. Vous souvenez? Quand on est dans Afala, on ne fait pas Rino. D'accord? Quand on est dans Afala, ça veut dire on pilote l'enfant, on doit être dans pilote. On le pilote. Rentre pas du chinour. Chinour, c'est expliquer, sensibiliser, moraliser. Est-ce que vous avez compris l'erreur? C'est comme pour la punition, c'est exactement pareil. Beaucoup de gens, ils font l'erreur de mélanger les pinceaux. Au moment de la punition, ils veulent rentrer du chinour. La punition, c'est une démarche de af'ala, de pilotage. Vous rappelez? Ouais. Donc si c'est une démarche de af'ala, qu'est-ce que tu rentres du chinour ici? Le chinour n'a pas sa place ici. Tu dois être dans af'ala, c'est-à-dire directive. Sèche, concise, claire. Et si tu dois donner une explication, ça doit être bref et concis. Beni shikarta, lachen ani tzarich la'anishotcha. Tu as menti, donc je dois te... Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, vous imaginez, oui. Tu as menti, donc je suis obligée de te punir. Voilà, c'est tout. Pas, tu sais, c'est grave le mensonge, et tu sais où ça peut mener, et d'un petit mensonge qui vole un œuf, vole un bœuf, et... Ferme le magnétophone, pas tout de suite. Est-ce que vous avez compris l'erreur, là? C'était Chinour et Afala qui se sont embrouillés. Vous avez compris l'idée? Voilà.
Est-ce qu'au moment d'une demande, on peut accompagner un enfant?
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, d'autres enseignements de judaïsme, par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo, ou sous forme d'articles. À bientôt!